Ce balado est un contenu publicitaire payé par Desjardins.
Ben, mon rêve, ça serait de vivre de ma passion. Je me suis inscrite à l'université en génie mécanique. Donc, j'aimerais ça pouvoir continuer à construire des bébelles puis vivre des bébelles.
Fait que ta passion, c'est de construire des bébelles ou de régler des problèmes?
Régler des problèmes avec des bébelles que je construis.
Je m'appelle Laurent Duvernay-Tardif. Puis à l'invitation de Desjardins, j'ai demandé à des gens de partout au Québec qu'est-ce que ça veut dire pour eux être ambitieux. Parce que le mot ambition n'a pas toujours une connotation positive. Puis on a une relation bien particulière avec ça. On veut réussir, on veut du succès, mais on veut surtout pas avoir l'air de s'en vanter. Bref, je me suis dit qu'on était dû pour plonger ensemble au cœur de l'ambition. Avec 5 épisodes derrière la cravate, on commence à avoir un portrait pas pire de c'est quoi l'ambition au Québec. On a compris comment nos entrepreneurs sont parvenus à réaliser des projets exceptionnels, autant ici qu'ailleurs. Il y en a qui sont motivés par l'envie de se relever les manches quand tout va mal, puis il y a ceux qui carburent à l'idée de venir en aide aux autres, qui font rimer ambition avec compassion. Aujourd'hui, pour notre dernier épisode, j'ai envie qu'on se projette dans le futur. Je veux comprendre c'est quoi l'avenir de l'ambition. Comment on reste ambitieux dans un monde où les technologies évoluent à une vitesse folle? Puis qu'est-ce que ça veut dire pour les générations futures? On en a discuté avec Mircea Vulture, qui est professeure et chercheure à l'Institut national de la recherche scientifique du Québec. C'est quelqu'un de bien placé pour parler de l'avenir de l'ambition avec nous, parce que son champ de recherche, c'est justement les jeunes aujourd'hui.
Avant, dans les périodes de croissance économique, c'était une période exceptionnelle où les progrès économiques allaient de pair avec les progrès sociaux. Et à cette époque, trouver un emploi stable, s'acheter une maison, faire des projets à long terme, tout cela semblait à la portée de la main. Dans ces contextes, il était plus facile pour beaucoup de gens de nourrir des grandes ambitions, parce que les futurs les offraient de garanties. Aujourd'hui, donc, on est dans un contexte de plus d'incertitudes et on a changé un peu d'angle de vue sur l'ambition. L'ambition était une ambition classique, c'est-à-dire matérialiste. Gravir les échelons, accumuler des biens matériels, comme un escalier, ou monter sur un escalier. Aujourd'hui, c'est comme la jungle amazonienne, hein, qu'il faut tracer son propre chemin de manière différente.
Justement, j'en ai rencontré une jeune fille qui trace son chemin de façon différente. Elle s'appelle Marianne Anger, elle a 19 ans, puis sa première invention lui a valu une foule d'honneurs et de distinctions académiques. Moi, je gage que c'est pas la première fois ni la dernière qu'on va entendre parler d'elle.
Allô, enchantée.
Je suis content de te rencontrer.
Moi aussi.
Je lisais ton pedigree. Premier prix Hydro-Québec, médaille d'or du réseau Technosciences, catégorie senior. Le prix réseau de l'Université du Québec avec une bourse de la relève scientifique. Une place à l'Expo Science pan-canadienne. Est-ce que ça vient d'une volonté de vouloir changer le monde, tout ça, ou c'est comme... ça a juste arrivé?
Je dirais un peu le mélange des deux, parce que j'aime beaucoup créer des choses avec mes mains. Puis j'ai toujours été curieuse dans la vie. Puis dans le fond, ça a comme adonné que quand je regroupais mes deux passions, ça permettait de construire des prototypes pour essayer d'aider le monde. Puis l'eutrophisation des lacs, donc un peu c'est en lien avec mes prototypes.
Là, tu utilises des mots déjà trop compliqués pour moi. Qu'est-ce que ça veut dire, eutrophisation?
L'eutrophisation, c'est en fait le principe du vieillissement d'un lac. Donc oui, un lac, ça peut mourir.
Ça vieillit?
Oui, ça peut vieillir, puis c'est un processus totalement normal sur des dizaines de milliers d'années. Mais à cause du réchauffement climatique, là, ce processus-là peut prendre seulement quelques dizaines d'années. Et il y a justement un lac en Estrie, pas loin de chez moi, qui est dans un stade assez élevé. Donc là, c'est venu m'impacter. Puis j'ai vraiment voulu donner de mon temps pour la communauté pour essayer de trouver des solutions.
Comment s'appelle la machine?
Le Hulot Water.
C'est toi qui as trouvé ce nom-là?
Oui.
Si tu avais à nous résumer ce que le Hulot Water fait comme processus chimique, physique, qui sauve les lacs en 30 secondes. Ça part maintenant.
Donc, en gros, mon prototype utilise... C'est une bouée qui utilise trois types d'énergie renouvelable, soit le soleil, le vent et le mouvement des vagues, pour venir injecter de l'oxygène dans l'eau. Donc, l'eutrophisation, c'est où est-ce qu'il y a un manque d'oxygène dans les lacs. Donc, mon prototype vient injecter de l'oxygène pour ralentir le phénomène d'eutrophisation.
Je trouve que les ambitions des jeunes générations sont particulièrement intéressantes et inspirantes. Elles vont au-delà du simple succès matériel et de la reconnaissance sociale. Beaucoup de jeunes veulent avoir aujourd'hui un impact positif sur la société. Le désir d'un métier a été remplacé avec le désir d'une mission. Parce que l'avenir, ce n'est pas ce qu'il va arriver, mais ce que nous allons faire. Sur le plan professionnel, les jeunes ont l'ambition d'expérimenter de nouvelles choses. Pas avoir un seul métier au sein de même entreprise toute leur vie, mais tout changer. Ils ne sont pas dans cette logique de gagner absolument de l'argent. Les enquêtes montrent que ce qui compte au moment où un jeune cherche un emploi, c'est l'ambiance du travail agréable, les relations avec les collègues, une tâche intéressante, l'autonomie dans le travail. Les salaires et la sécurité, qui étaient les piliers de l'ancienne génération, sont relégués à la toute fin. Et aujourd'hui, justement, une des formes de l'ambition, c'est de suivre sa passion.
Est-ce que tu sens plus de fierté en construisant le prototype ou en voyant ce qu'il y a d'accomplir?
Ben, c'est vraiment cool de voir que mon prototype fonctionne. Souvent, j'avais l'impression que c'était trop difficile, puis j'ai souvent pensé à arrêter, mais à force de continuer, c'est là que je vois que mes efforts sont finalement récompensés. Puis même les échecs permettent de nous relever, parce que ça nous apprend de nos erreurs, puis se faire un nouveau plan de match. On commence avec des plus petites passes, mais on peut finir à faire des touchdowns, puis...
Oh, c'est quasiment trop métaphorique ton affaire.
Quand j'entends des jeunes comme Marianne Anger, je me dis que l'avenir au Québec y est en de bonnes mains. En même temps, on sait à quel point ces générations-là vont être challengées par les nouvelles technologies. Vous me voyez venir, je parle de l'intelligence artificielle. C'est justement pour ça que j'ai discuté avec Valérie Pissano, la présidente de l'Institut québécois d'intelligence artificielle. J'ai eu envie de comprendre comment ces technologies-là pouvaient être mises au service de l'avenir puis de l'humain. Un peu dans le même esprit que Marianne avec son Hulu Water.
Allô, bonjour, bienvenue. Merci d'être là, ça va bien, toi?
Merci de
nous recevoir. Valérie Pissano, présidente et chef de la direction de MILA, l'Institut québécois d'intelligence artificielle. Notre mission, c'est de permettre l'essor de cette technologie-là pour le bénéfice de tous. On s'intéresse beaucoup aux applications sociales. On se préoccupe beaucoup des impacts sur la société. Comment est-ce que l'IA peut nous aider, par exemple, à mitiger les changements climatiques? Comment est-ce que l'IA peut nous aider à livrer des meilleurs services puis des meilleurs soins à la population?
Dans ces deux domaines-là, est-ce que tu as deux exemples précis de comment la technologie peut nous aider?
100 %, puis il y en a même des milliers. Donc, par exemple, au niveau des changements climatiques, on a ici à Montréal une start-up qui a émergé dans les dernières 5 années qui s'appelle Brainbox. Ils ont développé une technologie d'IA que tu peux aller brancher dans une tour à bureau, par exemple, ou dans un centre d'achat ou à l'aéroport Charles de Gaulle, parce que c'est un de leurs clients. Et ça rend l'édifice intelligent. Donc, l'édifice plus capable d'utiliser son énergie, de chauffer, de climatiser, etc. Tout ça, évidemment, pour réduire la consommation énergétique et réduire l'émission carbone des édifices. Ça a l'air de rien, mais la production d'émissions carbone par les édifices du monde, c'est la 3e ou 4e plus grande source de pollution. Donc ça, c'est un très bon exemple au niveau des changements climatiques. Il y en a plein d'autres. On a des chercheurs ici qui s'intéressent presque juste à cette question-là. Puis sur la santé, c'est un des endroits qui est le plus bouillonnant d'innovation puis de découverte. On a des groupes ici qui travaillent, par exemple, comment utiliser l'IA pour faire des meilleurs diagnostics dans presque tous les domaines que tu peux t'imaginer. Mais dernièrement, je lisais sur l'autisme, entre autres, mais sur plein de trucs. Hein. Puis on donne souvent l'exemple de l'IA qui va être peut-être plus apte qu'un œil humain à bien lire, exactement, la radiologie, etc. Mais aussi pour proposer peut-être des traitements plus personnalisés puis plus proactifs selon les individus en tenant compte d'un nombre presque infini là, de variables.
On le sait, l'arrivée de l'intelligence artificielle soulève pas mal de questions. Selon une étude de l'Institut du Québec, 18 % de la main-d'œuvre québécoise occupe actuellement un poste dit vulnérable au développement de l'intelligence artificielle. Pour moi, c'est évident que ça va redéfinir notre rapport à l'ambition.
Mettons que tu es un humain, un simple humain, qui veut être ambitieux, repousser ses limites. Est-ce que tu peux le faire sans l'intelligence artificielle? Est-ce que dans 20 ans, on va pouvoir inventer quelque chose sans utiliser l'intelligence artificielle?
Tu poses une très belle question. Je pense qu'on arrive à un moment où il faut se la poser, cette question-là, comme sincèrement. c'est quoi être un humain qui se pousse, qui s'accomplit, qui a des rêves, qui se réalise, qui contribue dans un monde où il va y avoir des systèmes qui auront plus de connaissances que nous. Ils sont capables de lire l'internet.
Déjà, en fait.
Déjà, OK. Ben oui. Qui auront plus de capacités analytiques que nous, qui, dans certains cas, vont être plus capables que nous d'arriver à la bonne réponse ou à la bonne décision. Donc quoi? Moi, je pense que cette question-là, elle est extraordinairement belle à explorer, puis je pense que ça va nous amener à des belles réflexions sur, justement, notre but d'envie, puis pourquoi on est ici, puis ça va nous amener à repenser certaines façons qu'on s'organise, pourquoi on travaille tant, c'est quoi vraiment contribuer à la société, c'est juste faire certains types de choses ou il y a d'autres types de contributions qui sont aussi valorisées. La question va se poser.
Je suis d'accord avec Valérie. On arrive à un stade où on doit se poser les bonnes questions en tant que société. Je me demande comment Marianne envisage ça, les grands changements puis les points d'interrogation que le futur nous amène.
Est-ce que ça freine ton ambition, toute l'instabilité puis tout ce qui se passe en ce moment? Est-ce que tu sens que ça devient comme tellement omniprésent puis irritant que ça te démotive des fois?
Des fois, oui, c'est ça. Fait qu'il faut un peu comme doser, dans le sens, faut choisir ses batailles aussi. Faut pouvoir décrocher, profiter du temps avec nos proches puis nos amis. Fait faut pas non plus être obsédé par un objectif. Je pense que c'est... Ça nous donne un but, mais c'est pas juste ce but-là qui est important dans nos vies, je pense.
Qu'est-ce qui te rend le plus fier dans tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant, du haut de tes 19 ans?
Beaucoup de fois, je pensais à arrêter, puis tu sais, c'était trop dur. Souvent, les tests fonctionnaient pas, mais de pas avoir lâché grâce à l'ambition, mais aussi à mon entourage, c'est ce qui me rend fière. Puis aussi le fait que quand j'étais jeune, j'étais très gênée. Donc, il y avait ce facteur-là que, tu sais, si on m'avait dit qu'aujourd'hui, je ferais un balado avec la légende du football, j'aurais jamais cru.
Tantôt, quand tu parlais de faire des analogies avec des passes puis des touchés, tout ça, c'était juste pour me faire plaisir.
Hein? Oui.
Selon toi, Marianne, l'ambition, c'est quoi?
L'ambition, selon moi, c'est le désir d'atteindre ses objectifs. Donc, tu te fixes un but que tu aimerais vraiment atteindre, puis... Si cet objectif-là, mettons, il est trop dur, ben là, tu le divises en plein de petits objectifs, puis là, tu fais tout, tu mets le temps, l'effort pour t'y rendre, puis peut-être qu'au final, ça marchera pas, mais au moins, genre, ça va t'avoir amené à une place peut-être même meilleure que tu aurais pensé.
Je sais pas si vous vous en souvenez, mais au tout premier épisode, Grégory Charles nous a avoué que lui, il était pas ambitieux pantoute quand il était petit. Puis ça m'a marqué, cette confession-là. Je vous dirais même que c'est une des plus belles révélations que j'ai eues dans ma quête de comprendre d'où ça vient l'ambition. Ce que j'en retire, c'est que c'est pas un trait de personnalité inné. On n'est pas avec ça. Au contraire, c'est comme un muscle qu'on peut travailler, entraîner. C'est quelque chose qu'on a tout en dedans de nous puis qu'on peut faire grandir en se lançant des défis, en se fixant des objectifs puis en rêvant grand. Puis d'ailleurs, ça aussi, ça m'a frappé. Pour avancer dans leurs rêves, les gens que j'ai rencontrés, bien, ont tous été capables de se fixer des objectifs qui étaient réalistes, qui étaient quantifiables. On dit que Rome s'est pas bâtie en un jour, puis à ça, je rajouterais que Farah Alibé, ben, elle s'est pas rendue sur Mars du jour au lendemain non plus. Faut avoir de la patience, de la persévérance, de la résilience, puis faut y aller une étape à la fois. Ce que je retiens aussi de nos entrepreneurs, ben, c'est leur perspicacité. Des fois, de voir grand, ben, c'est juste ça. C'est de repérer un besoin puis de passer en mode solution. Avant, il y a eu Joseph Armand Bombardier avec sa première motoneige. Puis aujourd'hui, ben, c'est beau de voir qu'il y a Marianne qui assure la survie de nos lacs avec son Hulu Water. Deux époques, deux réalités complètement différentes, mais cette même volonté-là de vouloir changer les choses. Une ambition qui s'adapte, qui innove, puis que malgré les obstacles, continue d'avancer. Rendu là, je pense que j'ai pas besoin de vous convaincre que moi, l'expression « être né pour un petit pain », ben, elle me plaît pas. Puis au risque d'abuser de métaphores de boulangerie, ben, je dirais même que les Québécois, on n'a pas peur d'avoir du pain sur la planche.
Tu veux-tu le mot de la fin?
La fin, genre, je dis...
Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut que les gens retiennent de tout ça?
On pourrait dire... Merci d'avoir écouté ce balado. Et...
J'adore ça. Continue, c'est parfait.
Je vous souhaite de la bonne curiosité pour l'avenir. De garder... de notre esprit ouvert, puis de jamais baisser les bras.
Si on les baisse, on les relève le lendemain.
Exactement.
Yes. Aïe, good job.
T'es un bon animateur, c'était fluide.
Merci d'avoir été à l'écoute. J'espère que, comme moi, vous avez apprécié ce voyage au cœur de l'ambition.